Bonjour à tous et à toutes. Nous allons ouvrir nos Bibles et méditer ensemble la parole du Seigneur. Notre méditation de ce matin se trouve dans 1 Pierre, chapitre 3, les versets 8 à 12. Donc nous continuons notre étude que nous avons déjà commencé depuis un certain temps sur l'épître de 1 Pierre. Et ce matin, nous arrivons au chapitre 3, le verset 8 à 12. Le dimanche dernier, nous avons médité sur le verset 1 jusqu'au verset 7 du chapitre 3. Donc, 1 Pierre, chapitre 3, le verset 8 à 12. Et le titre de notre message, c'est « Nos devoirs les uns envers les autres ». Nos devoirs, les chrétiens bien entendu, nos devoirs les uns envers les autres. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans 1 Pierre, si nous pouvons ouvrir nos Bibles, 1 Pierre, chapitre 3, le verset 8 jusqu'au verset 12. Lisons la parole de Dieu. Le verset 8. Enfin, soyez tous animés de même pensée et de même sentiment, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. C'est la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, après avoir parlé de la conduite des chrétiens envers les autorités, aux serviteurs de se soumettre à leur maître, et dans les sept premiers versets du chapitre 3, l'apôtre Pierre parle de la soumission dans la famille, la soumission des épouses aux époux et le devoir de mari dans le couple. Et maintenant, à partir du verset 8, jusqu'au verset 12, l'apôtre Pierre donne des recommandations à qui ? Pas à une catégorie de personnes, mais il donne maintenant des recommandations à l'ensemble des chrétiens, à tous les chrétiens. À tous les chrétiens. Parce que il débute cette paragraphe par ce terme au verset 8, enfin, soyez tous, sans exception, tous les chrétiens. Donc, il fait des recommandations, il donne des recommandations à tous les chrétiens, à l'ensemble des chrétiens, et pour cela, il cite les devoirs des uns envers les autres. Le devoir des chrétiens, les uns envers les autres. Et dans ce texte, dans ce passage, l'apôtre Pierre nous donne une image détaillée de la façon dont les chrétiens doivent se conduire envers les autres. Il donne des instructions précises et pose quelques principes qui doivent régir toutes leurs relations. Mais gardons à l'esprit, frères et sœurs, que cette lettre a été écrite aux chrétiens vivant dans une société païenne où le christianisme était attaqué et que les chrétiens étaient persécutés. Gardons ça en esprit. Mais avant de voir cette image détaillée que l'apôtre Pierre fait dans ce passage, une image détaillée de la façon dont les chrétiens doivent se conduire, regardons un instant ce qu'il a dit, ce que Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 11 à 12. Cela va nous aider de bien comprendre. Et dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 11 à 12, voici ce que Pierre a dit. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il le visitera. Alors, à quoi devrait ressembler cette bonne conduite dans les différentes relations que les chrétiens peuvent avoir, peuvent entretenir les uns envers les autres? Dans toutes ces relations, l'apôtre Pierre précise que les chrétiens doivent avoir une bonne conduite, sachant que le monde, le païen, nous regarde. Le monde, le païen, nous regarde. La question ici est de savoir comment avoir donc ces bonnes relations les uns les autres. Et cela nous amène à notre passage de ce matin où l'apôtre Pierre exhorte tous les chrétiens sur leur devoir. Comment ils doivent être? Comment ils doivent se conduire? Et pour cela, nous allons diviser notre texte en deux parties. La première partie va du verset 8 jusqu'au milieu du verset 9. Et la deuxième partie, du verset milieu du donc 9b, donc si on peut dire cela, 9b jusqu'au verset 12. 8 à 9 et 9 à 12. Alors, du verset 8 jusqu'au verset 9, la première partie, l'apôtre Pierre parle des relations des chrétiens avec les autres. Et en tant que chrétien, en tant que chrétien, frères et sœurs, nous qui sommes enfants de Dieu, nos vies doivent être différentes de celles des gens du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à être un peuple particulier, un peuple différent. L'apôtre Pierre lui-même a dit dans 1 Pierre 2 au chapitre 9, écoutez ce que l'apôtre Pierre a dit au chapitre 9 du verset 2 de 1 Pierre. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Et l'apôtre Pierre, en s'adressant à ces chrétiens qui étaient persécutés, il commence par décrire tout simplement, comme on l'a dit, le genre de chrétien qui devrait être afin d'avoir une bonne conduite les uns envers les autres. Et pour cela, il cite cinq caractères qui doivent caractériser leur vie, qui doivent caractériser un vrai chrétien. Cinq qualités. Un vrai chrétien né de nouveau pour une espérance, comme le dit Pierre, pour une espérance vivante pour la résurrection, par la résurrection de Jésus-Christ, comme le dit 1 Pierre 1 au chapitre 3. Alors, ces cinq qualités sont le devoir du chrétien dans toutes ses relations. Voici ce qu'il dit au chapitre, au verset 8. Voici ce que l'apôtre Pierre écrit. Enfin, soyez tous, un, animés de même pensée et de même sentiment. Deux, plein d'amour fraternel, plein de compassion, plein d'humilité. Même sentiment, même pensée, même sentiment, plein d'amour, de compassion, d'humilité. Voilà cinq qualités qu'il énumère au verset 8. Cinq devoirs d'un vrai disciple, d'un vrai enfant de Dieu, né de nouveau. Et cela doit se manifester dans leur vie, malgré la persécution, malgré la souffrance, malgré l'environnement dans lequel ils vivaient. Et ces qualités doivent se manifester chez les chrétiens, non seulement de cette époque-là, mais cela doit se manifester à tous les chrétiens de tout le temps, de tous les âges. Pourquoi? Parce que cela constitue le caractère semblable à Christ que les chrétiens doivent développer en tant que disciples de Jésus-Christ. Et en lisant la Bible, nous pouvons remarquer que notre Seigneur Jésus-Christ a démontré chacune de ses qualités dans sa vie terrestre. De sorte que ceux qui le suivent, nous qui le suivons, nous puissions être motivés à suivre son exemple. Enfin, soyez tous animés de même pensée et de même sentiment. Personne ne peut dire que cela ne me concerne pas. Aucun chrétien, aucun enfant de Dieu ne peut dire que moi je suis exclu de cela. Mais l'apôtre Pierre dit, tous nous sommes inclus là-dedans. Vivez en harmonie, dans l'unité. C'est ça, ayez le même pensée, le même sentiment. Malgré la persécution, ces chrétiens sont exhortés à garder une bonne conduite chrétienne par l'unité, l'amour fraternel, la compassion et l'humilité. Et le monde a besoin de voir cette unité parmi les chrétiens. N'oublions pas que le monde observe, le monde regarde comment les chrétiens se comportent entre eux. Le monde regarde comment les chrétiens se comportent avec les non-chrétiens. Et voici ce que l'apôtre Paul a écrit à ce sujet. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 1 à 3, voici ce que l'apôtre Paul dit. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et puis regardez ce que l'apôtre Paul dit au verset 5. Toujours du chapitre 2 de Philippiens, ce qu'il dit au verset 5, il dit ceci. En tant qu'enfant de Dieu, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En tant qu'enfant de Dieu, nous partageons les mêmes sentiments, les mêmes pensées. Nous devons partager les mêmes sentiments, les mêmes pensées, parce que nous avons la pensée de Christ. Nous, qui par la foi, nous avons cru en ce Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons la pensée de Christ par la foi en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Cette unité n'est possible, frères et sœurs, cette harmonie n'est possible que par la foi et la soumission à la volonté de Dieu et à sa parole. C'est vrai, nous ne serons toujours pas d'accord sur la façon dont les choses doivent être faites, mais nous devons nous mettre d'accord sur ce qui doit être fait. Concernant cette unité, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a prié pour cela, pour nous. Dans sa dernière prière avant de quitter ce monde, dans Jean chapitre 17, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21, écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa prière. Il a dit, « Je prie encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, parce que pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Parmi les qualités d'un vrai disciple, il y a l'amour fraternel, la compassion, l'humilité, l'amour les uns pour les autres, frères et sœurs, est un commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons même dire que c'est le trait caractéristique des vrais disciples de Jésus-Christ. S'il y a l'amour fraternel, s'il y a l'amour, le Seigneur lui-même l'a dit. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a déclaré. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. En plus, et après il ajoute quelque chose de très important. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Jean 13, 34 à 35. Nous avons donc le devoir de nous aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Oui, la compassion était la raison des nombreux miracles et des guérisons de Jésus-Christ. La Bible dit que notre Seigneur était une personne compatissante. Et nous, en tant que ses disciples, nous sommes également appelés à la compassion et être des bons samaritains de ce monde. Nous sommes appelés à nous oublier. Nous sommes appelés de nous identifier aux douleurs et à la souffrance des autres. C'est vrai, cela implique souvent des sacrifices personnels. Mais je pense que ça vaut le coup, parce que la Bible le recommande. La Bible dit que portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Portez les fardeaux les uns des autres. Agissons comme ce fut le cas de ces bons samaritains, nous connaissons l'histoire. Nous sommes appelés à être des bons samaritains de ce monde. Et c'est ce que l'apôtre Pierre exhorte à ce chrétien qui souffrait. Imaginez que les gens qui sont dans la difficulté, mais l'apôtre Paul les exhorte. Il dit, oui, vous êtes les bons samaritains. Quelle que soit la persécution, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vivez. Et frères et sœurs, l'humilité, c'est la qualité essentielle pour un chrétien. C'est une qualité essentielle pour un chrétien. C'est reconnaître ses faiblesses, mais aussi reconnaître ses limites. Reconnaître aussi la valeur des autres. Malheureusement, dans le monde, l'humilité est considérée comme un signe de faiblesse. On le voit, surtout au travail, on le voit. L'humilité est considérée comme un signe de faiblesse. Pourtant, l'humilité est une qualité importante d'un enfant de Dieu. Nous n'allons pas trop rentrer dans le détail sur les cinq qualités, sur ces cinq devoirs. Mais sachons que ces qualités, c'est ce que l'apôtre Pierre demandait à ce chrétien à l'époque, que toutes ces qualités doivent se retrouver dans leur vie. Comment ils devraient agir face à ceux qui les entouraient, face à ses frères chrétiens et face aux non-croyants, aux non-chrétiens aussi. Ce n'était pas facile, frères et sœurs, mais il fallait. Nous ne pouvons pas atteindre ces qualités par notre propre force ou par notre propre mérite sans l'aide du Saint-Esprit. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas atteindre toutes ces qualités. Et la deuxième partie va du verset 9b jusqu'au verset 12. Et il est encore une fois de plus important de se rappeler que Pierre parle aux chrétiens qui vivent dans un environnement qui n'est pas agréable, qui n'est pas paisible. Il parle aux chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ces chrétiens étaient au milieu de la souffrance, au milieu de la douleur. Et à partir du verset 10, il les exhorte à travers les paroles du psaume 34. Et dans ce psaume, le psaume 34, David donne les secrets pour aimer la vie et voir les bons jours. Parce que le verset 10 nous dit ceci, « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. » Le verset 11, « Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » David, l'apôtre Pierre n'a fait que citer le psaume 34 à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Préserve ta langue du mal, éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche et poursuis la paix. C'est cela aussi, avoir une bonne conduite d'un vrai disciple, d'un vrai chrétien. La langue, frères et sœurs, est l'une des armes les plus dangereuses possédées par l'homme. Elle peut être utilisée pour blesser, pour tromper, pour faire du mal, pour créer des conflits. Mais tout ce qui sort de notre langue, de notre bouche, tous les discours qui sortent de notre bouche, voici ce que la parole de Dieu dit. Que votre discours soit toujours avec grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul leur a dit, préserve ta langue du mal. Avec la langue, on peut incendier, on peut provoquer le feu, mettre du feu. Avec la langue, on peut tuer. Avec la langue, on peut diviser les gens. Au lieu de semer la paix, on peut semer la trouble avec la langue. Mais il leur dit que vous êtes, il leur exhorte, il dit que vous êtes appelés à faire le bien, à rechercher, non seulement à rechercher la paix, mais à poursuivre, à la poursuivre. Comment ? Nous ne devons pas donc dire des mots qui font du mal aux autres. C'est ça, préserver sa langue. Nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Nous ne devons pas rendre injure pour injure. C'est ce qu'il leur dit. Et cela est vrai encore aujourd'hui pour nous, ce matin. Et au contraire, qu'est-ce qu'il dit ? Il leur dit, au contraire, vous devez dire des paroles de bénédiction comme notre Seigneur nous l'a ordonné. Dire des paroles de bénédiction à ceux qui vous font du mal. Ce n'est pas facile. Mais l'apôtre Pierre les exhorte, ceux qui vous persécutent, dites des paroles de bénédiction. Ne rendez pas le mal pour le mal, injure pour injure. Le Seigneur Jésus-Christ nous a aussi laissé cet ordre en disant, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père céleste. Voilà ce que le Seigneur dit. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez même pour vos ennemis, pour nos ennemis. Ce n'était pas facile pour ces chrétiens de l'époque d'accomplir cela. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, cela était possible. Parce que c'était une recommandation que l'apôtre Pierre leur a donnée. Nous lisons verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelé afin d'hériter la bénédiction. Cela consiste, frères et sœurs, simplement à suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. À suivre l'exemple de notre Jésus-Christ. Christ a souffert pour vous, dit l'apôtre Pierre. Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suivez ses traces. Lui qui injuriait n'a pas injurié, ne rendait point de jure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà ce qu'il leur dit. Il veut que chacun puisse faire un effort de refléter, de manifester toutes ces qualités dans leur vie. Et c'est ce qu'on dit. C'est même un devoir d'un chrétien de le faire. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'ordonne. Et quand le Seigneur l'ordonne, donne un ordre, ça devient un devoir pour nous, pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Non seulement nous devons avoir la pensée de Christ les uns envers les autres, mais nous devons aussi avoir la pensée de Christ envers ceux qui nous font du mal. C'est facile de dire que nous devons avoir la pensée de Christ. Même sentiment, même pensée. Oui, c'est bien. Mais nous devons aussi avoir la pensée de Christ envers ceux qui nous font du mal. Et la pensée de Christ par rapport à ceux qui nous font du mal était quoi? L'apôtre Pierre l'a dit. Lui qui injuriait n'a pas injurié, ne rendait point de jure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà ce qu'il leur dit. Voici comment vous devez vous comporter vis-à-vis de ceux qui vous maltraitent, vis-à-vis de ceux qui vous persécutent. Suivez l'exemple de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, cela nous concerne, frères et sœurs. Cela nous concerne, frères et sœurs, parce que cette parole nous concerne. Parce qu'il dit, enfin tous, nous tous, nous devons agir de cette manière-là. La vie à l'image de Christ n'est pas le résultat de nos efforts personnels. Par nos efforts personnels, nous ne pourrons pas. Cela est vrai pour nous. Cela aussi a été vrai pour ces chrétiens de l'époque, par leurs efforts personnels, parce que l'homme, la nature humaine, entre guillemets, la nature charnelle, ne se laisse pas faire. Tu m'as fait ceci, tu verras ce que je vais te faire. Mais l'homme renouvelé, celui qui est né de nouveau, celui qui est devenu une nouvelle création, une nouvelle créature, doit agir autrement, doit suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. La vie à l'image de Christ n'est pas le résultat de nos efforts personnels. Au contraire, la vie à l'image de Christ est le résultat de la grâce de Dieu opérant en nous. Nous transformons à l'image de Christ qui est notre Seigneur et Sauveur, frères et sœurs. Dans le premier chapitre, au verset 3, toujours de 1 Pierre, à partir du verset 1 Pierre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9, l'apôtre Pierre parle de ce grand et glorieux héritage qui nous est réservé dans les cieux, qui est le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Et ici, l'apôtre Pierre ne dit pas que nous méritons ce glorieux héritage par notre conduite chrétienne. Non, loin de là. Loin de là. Au contraire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à cause de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grâce, sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous pouvons avoir cet héritage glorieux. Ce n'est pas par nos mérites, par nos conduites, par notre bonne conduite. Non, loin de là. Mais ce n'est que par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est manifesté en nous. Et jour après jour, frères et sœurs, nous devons avoir une conduite qui reflète la foi que nous avons en Jésus-Christ. celui qui marche d'une manière digne de la vocation, d'une manière digne de la foi qu'il professe. Le Seigneur le bénira. C'est ce que la parole de Dieu. Le Seigneur bénit ceux qui font le bien, mais s'oppose à ceux qui font le mal. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leur prière. C'est ce que le Seigneur dit. Verset 12 dit, « Car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Frères et sœurs, nous pouvons avancer mille et une raisons de ne pas se conduire d'une manière ou d'une autre. Mais ce que le Seigneur veut, qu'il puisse retrouver toutes ces qualités dans notre vie, malgré l'environnement dans lequel nous nous trouvons. C'est ce qu'il a dit à ces chrétiens, aux chrétiens de cette époque, et c'est ce qu'il dit aussi aujourd'hui à nous autres qui sommes là. Comment nous devons nous comporter? Parce que le monde, les non-croyants, nous regardent. Pour finir, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide dans nos relations, les uns envers les autres, de refléter une conduite qui reflète notre foi en Christ. Prions le Seigneur pour que nous soyons tous animés d'une même pensée, de même sentiment, plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. C'est ce que le Seigneur recherche dans nos vies. Soyons des ambassadeurs de paix et non de division. Ne répondons pas aux insultes par des insultes, mais répondons par des paroles de bénédiction. Malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré l'environnement dans lequel nous nous trouvons, fixons toujours nos regards, ayons toujours nos regards vers cette bénédiction qui est en vue, ces grands et glorieux héritage qui nous est réservé dans les cieux. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit à ce chrétien pour les encourager, pour les exhorter. Parce que le Seigneur, notre Dieu, n'abandonne jamais ses enfants. Ses yeux sont fixés sur ses enfants. Et il entend les prières de ses enfants. Que cela puisse nous encourager. Que cela puisse nous réconforter, parce que notre Dieu nous regarde et notre Dieu est avec nous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions de nous aider à mettre en pratique ta parole dans nos vies. Père, remplis nos cœurs de ton amour, de ta force, de ta sagesse. Guide nos pas, afin que dans notre conduite, dans nos relations envers les autres, que tu sois glorifié en toutes choses. Merci Père, parce que tu nous aimes. C'est pour cela que tu nous as donné, tu nous donnes cette parole ce matin. Aide-nous à la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen.